Comment les élus d'une ville pensent-ils le sport comme un atout d'attractivité et d'image, et bien entendu aussi de santé pour leurs habitants? Réponse avec le maire de Vichy. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je pars donc à la rencontre de Frédéric Aguilera, qui est maire de Vichy. Vous le savez, je suis installé à Vichy depuis le 13 avril, une ville que je connaissais pour y avoir beaucoup enseigné, mais aussi pour être venu voir du basket, courir deux fois le semi-marathon. Et justement, j'avais cette image de Vichy, ville sportive. Et c'est vraiment cette image-là qui m'intéresse, car en fait, c'est pas qu'une image, c'est aussi une réalité au quotidien. Le nombre de personnes faisant du sport le long de l'Allier est incroyable. Il y a des installations de pointe, la moitié de la superficie de la ville est dédiée au sport, les manifestations sportives sont vraiment nombreuses. Et la ville a aussi accueilli des délégations internationales pour préparer des grandes compétitions. On parle notamment dans cet épisode des États-Unis, de l'équipe de natation des États-Unis avec Michael Phelps pour les Jeux Olympiques de Londres. Mais alors, d'où vient cette tradition sportive? Et comment la ville se positionne-t-elle dessus? Comment fait-elle pour se positionner et y réfléchir? Car vous allez écouter que c'est un héritage que les différents maires ont développé et que Frédéric Aguilera, l'actuel maire, perpétue avec une vision très précise. Son ambition est de développer l'excellence et il explique exactement pourquoi. Son but est aussi d'en faire un relais économique fort et il explique d'ailleurs que c'est un vrai vecteur d'attractivité et de développement territorial et il replace le sport par rapport au cure thermale, par rapport au tourisme, et il montre l'importance que le sport a pris. Et bien entendu, c'est aussi un vecteur de santé pour les habitants, d'éducation pour les enfants de la ville. Et nous avons donc parlé de sa stratégie, des installations, des événements accueillis, des commerciaux aussi pour attirer les délégations. Oui, des commerciaux pour attirer les délégations. Et puis du rôle aussi que va jouer Vichy dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024 en accueillant des délégations. Il va nous expliquer d'ailleurs une petite anecdote sur une délégation qui viendra s'installer. Et puis vous saurez aussi sa vision du sport, du développement du sport et de sa ville. Et vous allez voir qu'il a une idée très précise aussi de comment on peut amener les gens à découvrir de nombreux sports, de nouveaux sports. Et peut-être que ça chamboule un petit peu les habitudes des clubs, mais il va nous expliquer vraiment pourquoi, comment lui voit les choses et comment il veut aider à ce que ça se développe comme ça. Voilà, c'est un épisode qui est vraiment très intéressant, c'est la première fois que je reçois un élu, c'est la première fois que nous abordons ces questions, mais je pense que c'est vraiment très intéressant parce que justement, c'est comme ça aussi, c'est eux qui gèrent les infrastructures. On a par exemple parlé de la piscine, on a parlé des pistes cyclables, nous avons parlé aussi de tout ce qu'il veut développer, et donc c'est intéressant aussi de voir comment nos élus réfléchissent à ces questions-là. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Frédéric Aguilera, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau d'une ville extrêmement sportive.
Oui, une ville sportive depuis toujours. C'est un peu dans son ADN. Parce que déjà, il faut avoir en tête que les villes thermales, quand on faisait des cures dès l'origine, l'activité physique, l'activité sportive était déjà préconisée pendant les cures. Donc c'est vrai qu'une ville thermale, par définition, et vous retrouvez dans toutes les villes thermales de France et même en Europe d'ailleurs, des parcours sportifs, ou même quand on construisait des parcs dans les villes thermales d'ailleurs, c'était pour justement faire de l'activité sportive. Donc une ville qui a effectivement dans son ADN le sport, l'activité physique.
Mais alors l'autre jour, je me suis mis devant une affiche où j'ai vu le programme des activités sportives de... Alors, je sais même pas jusqu'à quand elle va, cette affiche, parce que j'ai l'impression que c'était sur 2-3 mois. Mais elle était longue. Alors, je vais dire longue comme le bras, mais en fait, il y en a tout le temps.
Oui, alors il y a beaucoup d'activités sportives, mais après il y a différents niveaux et différentes cibles. Il y a des activités sportives qui s'adressent au grand public ou les animations ou les activités sportives des clubs. Il y a les activités sportives qui sont proposées par la ville en direction de différentes cibles. Et puis il y a tous les événements sportifs, on va dire d'une certaine manière, que ça soit les championnats et autres. Et on en compte selon les années, c'est-à-dire entre 70 et 80 événements. Donc des fois, ça en fait même 1, 2, 3 par semaine, puisque tout ça se concentre des fois sur des périodes un peu plus courtes. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les stages sportifs, de plus ou moins haut niveau. Donc tout ça, ça fait effectivement des cibles de sportifs et des objectifs qui sont un peu différents dans nos stratégies, mais qui s'additionnent d'une certaine manière pour dans cette logique de ville, de Vichy la sportive, et puis d'attractivité du sport sur notre territoire.
Parce que moi, j'ai été marqué. Moi, ça fait, je suis installé depuis le 13 avril à Vichy. Et quand je vais courir, mais il y a un monde qui est incroyable, qui court, ça court partout. Alors après, en plus, il y a des t-shirts des courses, de l'Ironman, des différentes courses, etc. On voit les clubs. Puis quand on regarde sur l'Allier, on voit l'aviron. Puis on voit tous les, enfin, vraiment, il y en a partout. Alors j'ai l'impression, je m'étais dit, mais il y a une densité de sportifs qui est vraiment impressionnante. Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de licenciés dans une ville comme Vichy?
Non, c'est difficile à dire. Enfin, faudrait refaire le calcul. J'ai pas d'idée, mais effectivement, c'est énormément. Et puis, il y a aussi le sportif non licencié, d'ailleurs. Et donc, ceux qu'on voit courir autour du plan d'eau, ils sont pas tous non plus licenciés, mais c'est plusieurs milliers, ça c'est sûr, dans les clubs. Et puis en plus, on parle des Vichysois, mais c'est toute une agglomération globalement qui est sportive. On a une ville comme QC qui est aussi une ville qui est historiquement très sportive, qui a toujours eu une politique sportive très très dynamique. Des villes comme Saint-Thior, même Bellerive. Donc c'est effectivement toute une agglomération au-delà de Vichy qui a cette fibre sportive. C'est lié aussi aux équipements mis à disposition, c'est lié aux politiques publiques qui sont développées, et puis c'est certainement lié à une volonté de nos populations, puisqu'il faut aussi qu'il y ait la volonté des habitants de faire du sport. Donc non, c'est vrai qu'on a cette chance-là. Et ces différentes politiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes cibles, elles se nourrissent, entre guillemets, entre elles, parce que quand on accueille un événement comme l'Ironman, vous citiez les gens qui courent maintenant avec l'Ironman, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit sur la thématique du triathlon ou même de l'Ironman en général, on a un nombre de Vichysois qui participent à l'Ironman ou qui font maintenant du triathlon. Bah pourquoi ? Parce qu'on a un événement comme l'Ironman, et évidemment, comme cet événement est un événement majeur ça incite les gens après à se dire et pourquoi pas moi. Donc c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup maintenant de triathlètes sur notre territoire, et donc c'est l'événementiel nourrit aussi le sport pour tous, etc. Et inversement, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont dans le sport pour tous, qui sont dans les clubs, ça porte aussi des événements. Et l'exemple du triathlon, et je le reprends cet exemple là mais un bon exemple, c'est-à-dire que on voit ce week-end, il y a le triathlon de Vichy qui a dépassé les 1000 inscrits. Alors qu'est-ce qui de l'œuf ou de la poule dans tout ça, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a beaucoup de triathlètes, ça encourage à faire des gros événements. Comme il y a des gros événements, ça va encore amener d'autres athlètes, d'autres licenciés qui se nourrissent aussi avec la dynamique Ironman. Donc voilà, et le but c'est de le faire comme ça dans un maximum de sport, avec dans notre objectif cible la qualité de vie, la santé des habitants. Et puis là-dessus, moi, j'assume cette stratégie-là, une stratégie aussi de développement, c'est-à-dire se servir du sport comme une source de développement de notre territoire. Aujourd'hui, le sport, dans l'économie locale, par exemple, si je raisonne en nuitée ou en retombées économiques, dans les commerces, dans les restaurants, etc., c'est presque aussi important, voire ces deux dernières années avec le Covid, ça a été plus important que le thermalisme. Donc on est une ville de cure, mais le sport, avec tous les événements qu'on organise, tous les gens qui viennent à Vichy faire du sport pour des événements, etc., les retombées sont plus importantes que le thermalisme. Donc on est presque avant tout maintenant une ville sportive et thermale, et non pas thermale et sportive. Mais bon, après on a notre ADN, il faut en être fier, parce que si on a ce sport, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a été thermal. Donc il faut réaffirmer notre identité thermale, et c'est une très bonne chose.
Mais c'est vrai que c'est intéressant cette attractivité parce que il y a des villes qui ont de l'attractivité par des grandes équipes. On pense les équipes de foot, de rugby, la Coupe d'Europe, etc. On parlait des nuitées avec l'ASM à Clermont et tout. Bon, la JAV est en Pro B, c'est quand même pas l'attractivité Coupe d'Europe, etc. Ça reste du basket et tout. Mais c'est vrai que sur la multiplicité des événements, finalement, l'attractivité touristique, elle est moins liée à des résultats d'une équipe qui pourrait être un moteur. Elle est plus c'est plus garanti dans l'année, puis dans le temps, et puis vous n'êtes pas tributaire finalement des résultats d'une équipe ou d'une catastrophe d'une équipe qui descendrait ou qui aurait des mauvais résultats.
C'est lié à une dynamique collective et c'est lié à ce qu'on essaie de cultiver, c'est-à-dire l'excellence sportive dans toutes les parties. Et cette notion d'excellence, un mot aussi, c'est que je parlais des stages, etc. Pour nourrir ça et pour nourrir aussi l'identité d'un territoire, il faut aussi de l'excellence. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé aussi autour de la démarche JO 2024 à Paris. C'est pas là pour le coup ni la retombée ni le côté masse parce qu'on aura que des entraînements et de la préparation sur le territoire. Sauf que, on le sait tous, à partir du moment où on démontre que notre territoire peut entraîner des athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques, la compétition par excellence, phare par excellence au niveau international, ça veut dire qu'on a des équipements d'excellence, qu'on a des installations et qu'on est une terre d'excellence sur le plan sportif. Donc en misant sur l'excellence un peu omnisport, d'une certaine manière, chacun y trouve un peu son compte, et c'est cette excellence omnisport qui crée la dynamique, et effectivement pas spécialement une équipe Fanion, même si on est fier de la JAV, on est fier d'un certain nombre d'équipes, mais effectivement c'est pas, comme vous le dites, c'est pas championnat d'Europe ou je ne sais quoi, donc on est bien conscient. Mais cette excellence sportive, effectivement, génère plein de dynamiques qui sont passionnantes.
Puis, alors, il faut le dire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a des équipements. Moi, j'ai croisé il n'y a pas longtemps, je peux le dire, Alexandre Béraud, que j'avais eu sur le podcast il n'y a pas très longtemps, qui fait partie des meilleurs trailers français, qui m'a dit « Ouais, les équipements qui sont mis en place et tout, c'est juste hallucinant. » quoi. C'est vrai que tout le monde m'en parle. Depuis que je suis arrivé, tout le monde me parle de ces équipements, du haut niveau de ces équipements.
Oui, alors c'est vrai que là on sort, alors ils n'ont même pas été encore inaugurés, ils vont être inaugurés dans les prochaines semaines en plus, des équipements autour du centre Omnisport et du Krebs, on a investi ces dernières années plus de 50 millions sur justement ces équipements d'excellence. Avec cette logique-là, c'est que l'excellence marque notre territoire et après génère des dynamiques, attire des équipes. Je cite souvent cet exemple, mais il est vrai, c'est-à-dire que dans les équipements d'excellence, on a historiquement aussi, enfin historiquement en tout cas depuis une vingtaine d'années maintenant, notre piscine, la fameuse piscine de Belleuil, on l'appelle pas comme ça, mais où on avait accueilli en 2012 l'équipe américaine de natation pour la préparation des Jeux Olympiques de Londres. À partir du moment où une équipe phare de surcroît américaine avec Michael Phelps, etc., était venue s'entraîner à Vichy, que de surcroît, c'est après les JO de Londres, où là où ils avaient accumulé le plus de médailles historiquement pour l'équipe de natation américaine, etc., pendant plus de 10 ans, on a des gens qui voulaient venir nager dans cette piscine, voulaient faire des compétitions dans cette piscine, venaient les équipes qui venaient faire des stages, parce que voilà, il y a cette référence. Si les Américains l'ont choisi, c'est que c'est un équipement d'excellence et de référence. Donc là, c'est un peu les mêmes stratégies, c'est-à-dire qu'au Krebs, on a évidemment des équipements qui sont à un niveau d'exigence incroyable, assez rare en Europe, voire assez rare dans le monde. Discuter avec les Américains et l'équipe américaine de triathlon et de paratriathlon d'ailleurs, ont fait le choix de venir faire leurs entraînements pré-olympiques à Vichy. J'en discutais avec le directeur de l'équipe qui me disait, même aux États-Unis, on n'a quasiment pas de niveau d'équipement comme ça. Et d'ailleurs, pour la boutade, et j'aime bien le répéter, parce qu'en plus il l'a dit publiquement, je crois qu'il l'a même dit à la presse, il disait, mais en plus, nous, on aurait ce type d'équipement-là et on aurait les JO chez nous. Mais ces équipements seraient réservés aux équipes américaines. On l'ouvrirait pas à des équipes concurrentes parce que voilà, vous avez, ils sont effectivement, et tout le monde est assez bluffé par nos niveaux de l'exigence et l'excellence des équipements qu'on va inaugurer dans quelques jours, même s'ils sont pour certains en activité depuis le mois d'octobre, ces équipements, et un autre depuis le week-end dernier, la double halle, qui est aussi un équipement majeur pour les sports co en salle.
Et c'est vrai que ça fait un espace, enfin, la superficie dédiée au sport dans Vichy. C'est vrai qu'on parle des parcs, etc., mais la superficie de toute la zone sportive, elle est gigantesque. Je sais pas comment ça représente de pourcentage de la ville, mais c'est vraiment important, quoi.
La ville de Vichy en tant que telle, la zone ville, c'est 400 hectares. La zone sport, c'est 500 hectares.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a plus de surface d'équipement sportif que de surface de ville, en fait. Donc là aussi, c'est assez intéressant de présenter les choses comme ça. Alors, c'est la ville, c'est pas l'agglomération. Mais c'est vrai que c'est intéressant de présenter les choses comme ça. Ça montre effectivement aussi le côté un peu disproportionné de ces équipements sportifs. Avec, là aussi, hein, c'est lié à toutes les époques. Je parlais de l'époque thermale où, dans les villes thermales, très souvent, on développait des golfs, un hippodrome. Par la suite, il s'est développé le sporting tennis, et puis après, dans les années 60, le centre omnisport, le Krebs et les autres équipements. Donc c'est vrai que c'est tous ces équipements et la somme, d'une certaine manière, de plus d'un siècle d'équipements et de création d'équipements autour du sport et de la thématique du sport. Ce qui est intéressant, c'est de se regarder aussi dans les années 60, pourquoi il y a eu cette accélération de création des équipements sportifs. Et là aussi, c'est un peu la même logique et l'ADN des villes thermales. Pour le maire Pierre Coulon à l'époque, c'était de se dire, bah voilà, le thermalisme était en train de chuter profondément dans les années 60, pour plein de raisons. L'une des raisons, c'est que, bah, c'était là, les médicaments arrivaient en force, donc pourquoi aller passer 21 jours à faire des cures si on peut se soigner en 3 semaines ou en 15 jours avec des médicaments, la décolonisation, enfin, on connaît toutes les raisons de la chute du thermalisme à Vichy, même si aujourd'hui ça reprend avec la mode des médecines douces, etc. Dans les années 60, c'était une période dure. Et il a dit, bah, comment il faut se préparer à la suite? Et la logique était la même. C'était de dire, bah, on est dans une ville thermale, on est dans une ville de santé. Qui dit ville de santé, bah, on doit axer aussi notre politique sur le sport. Santé, sport. Déjà dans les années 60. Et donc, c'est les équipements et tous les investissements majeurs autour du sport qui correspondaient à notre ADN thermal de santé. Et aujourd'hui, évidemment, on prospère sur tout cela, on se développe sur tout cela. Ce qui manquait peut-être, c'était cette notion d'excellence que l'on est en train, et un peu la cerise sur le gâteau qu'on est en train de rajouter aujourd'hui, justement pour faire rayonner, parce que le sport, on le sait, c'est par définition, le sport, il y a une dimension de compétition. Donc, si qui dit compétition dit excellence, donc les territoires après qui créent des dynamiques, c'est les territoires qui ont cette excellence, ou par leur club qui rayonne, comme vous le disiez, ou par l'excellence de leurs équipements.
C'est vrai que, bon, il y a combien d'habitants à Vichy ?
Vichyville, c'est 25 000, l'agglo, c'est 85 000.
Quand on regarde un petit peu dans les sports co, on a souvent les grandes villes qui prennent de la place, qui accélèrent et tout. Moi, je me rappelais il y a longtemps quand même, j'ai vu le président de la Ligue de basket qui disait Vichy, Clermont, qui ont des équipes de basket de haut niveau, il y a une anomalie, donc il y avait eu des rapprochements, des choses comme ça qui étaient faits. Et on condamnait un petit peu les petites villes en disant les petites villes avec les équipes de haut niveau, ça se fait plus trop. Alors, c'est vrai que sur le foot, on le voit de moins en moins, même si il est encore là-dessus. Par contre, on voit que Vichy, en basket, bon, était en play-off. A longtemps joué en Pro A, a même des très belles années, très très belles années de Pro A et tout. Comment c'est d'arriver à positionner ces équipes collectives, parce que c'est quand même des budgets qui augmentent de plus en plus. Enfin, le rugby se professionnalise, c'est une tradition du rugby à Vichy, mais ça se professionnalise, donc c'est compliqué aussi. Comment on arrive à positionner ces équipes-là aussi?
C'est compliqué, effectivement, hein, dans les villes moyennes, de se dire comment les villes moyennes, dans le temps, vont arriver à porter des équipes et, en conséquence, des budgets d'équipes pro. Ça, c'est effectivement un vrai sujet. De surcroît, les villes moyennes ou les bassins économiques avec une dimension industrielle assez moyenne. Pourquoi je dis ça? C'est que ce qui porte aussi les équipes, c'est certes la capacité du public à porter, du secteur public, mais c'est aussi la capacité du secteur privé à porter. Et on sait qu'on n'a pas de grandes enseignes, etc., qui sont sur notre territoire et qui pourraient être aussi pourvoyeurs de fonds importants. Donc c'est une vraie interrogation, mais pas que chez nous, dans toutes les villes moyennes, de se dire comment on peut porter. Et c'était parfaitement le sens de ce rapprochement effectivement entre Vichy et Clermont pour le basket. Moi, je regrette profondément la décision de Clermont-Ferrand d'être sorti de ce mariage. Je pense que ça avait du sens dans cette logique-là, même si j'avais bien conscience effectivement qu'on diluait un peu l'identité du club de Vichy. C'est une réalité et on voit bien que le point positif de ce divorce, c'est qu'on retrouve notre identité, donc une dynamique au niveau des supporters. Pour autant, économiquement, ça avait du sens d'un point de vue purement économique. Donc oui, c'est un vrai questionnement de se dire comment demain des clubs vont pouvoir exister. Donc d'où l'importance aussi, malgré tout, de ces clubs et si on veut monter des marches supplémentaires, de se professionnaliser dans la manière dont on accueille, dont on crée des événements autour de l'événement sportif pour aller attirer aussi des acteurs économiques au-delà de la simple agglomération vichysoise, mais très certainement continuer aussi de rayonner vers Clermont pour attirer aussi demain des sponsors de Clermont, etc. Donc c'est des stratégies aussi au long cours qui sont pas simples, mais oui, le sport de très haut niveau dans les villes moyennes, c'est compliqué.
De toute façon, on voit que c'est aussi une bagarre dans le temps, parce que moi je me rappelle il y a quelques années, alors je ne sais plus il y a combien d'années, on parlait du Krebs, on parlait de la fermeture du Krebs potentielle. Ah oui? Et quand on va dans les investissements, on se dit le travail qui a été fait est énormissime pour arriver justement à pérenniser ça, avoir des équipements comme ça. C'est-à-dire que à combien d'années vous réfléchissez sur le développement sportif d'une ville comme ça?
Pas que sur le sportif d'ailleurs, je pense que c'est tout, ça c'est un tout autre débat, mais je pense que sur les secteurs le secteur et les stratégies territoriales, on peut difficilement réfléchir sur des stratégies inférieures à 15-20 ans. Même dans l'idéal, il faut réfléchir au-delà, parce que des équipements comme ça, des stratégies comme ça, sportive en plus, ça implique aussi des réserves foncières, ça implique donc c'est à minima sur 15 ans. Et le projet que l'on commence à voir, dont on commence à voir la phase un peu visible là de l'iceberg, c'est un projet qui m'a mis plus de 10 ans à vraiment, d'une certaine manière, se consolider, trouver des partenaires financiers, passer en phase de projet. Et encore 10 ans, on a été relativement rapide. Ce qui a été un accélérateur, là, pour le coup, dans le temps, c'est que, entre autres, côté service de l'État ou grands partenaires, il y a justement les JO de 2024. Et les JO de 2024, bah, tout le monde, la France, les partenaires, l'État, ils voulaient être prêts pour les JO de 2024. Donc ça a été un accélérateur. Sans les JO, je pense qu'on aurait mis 50 plus.
D'accord. Enfin, après, c'est vrai que, enfin, par exemple, j'ai l'impression que dans le Puy-de-Dôme, les JO, enfin, ça passe un petit peu à la trappe.
Oui. Alors, que je m'explique bien aussi sur cette histoire de JO. Je le redis, c'est pas parce qu'il y a les JO de 2024 et que certaines équipes vont venir s'entraîner à Vichy que tout d'un coup, ça va générer du développement. Pour nous, l'idée, c'était vraiment c'est une stratégie au long cours qui va bien au-delà des JO. Les JO, c'est simplement une opportunité pour marquer notre territoire sur l'excellence. En fait, la vraie stratégie, elle commence maintenant et elle va commencer, pour reprendre les expressions utilisées par le CIO, c'est l'héritage des JO. C'est l'après 2024 qui m'importe, en fait. 2024 doit simplement, à un moment ou à un autre, valider la stratégie, valider l'excellence de nos équipements. Et après, on doit accélérer après 2024 pour vendre notre territoire. Bon, c'est effectivement notre choix sur le territoire, c'est un choix stratégique, d'autres territoires font un autre choix, mais nous, c'est un choix qui correspond, je le redis, à notre histoire, à la qualité de nos équipements historiquement, et du Centre Omnisports en particulier. Donc, d'autres villes, parliez du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand font plutôt un choix tourné autour de la culture, etc. Voilà, il y a d'autres choix selon les territoires.
Oui, bon, même si après Clermont, c'est vrai que cette année, il y a le Tour de France. Et c'est...
Donc ça, c'est de l'événementiel pur, c'est pas de la stratégie au long cours ou sur le fond. C'est très respectable et moi, je pense qu'il faut de l'événement et je suis très content, nous aussi, qu'on organise des événements sur notre territoire. Mais les événements peuvent pas résumer une stratégie sportive. Les événements, ça donne de la visibilité à un territoire pour approfondir des stratégies. Mais on peut dissocier la note politique que l'on mène autour du Krebs, par exemple, de la politique événementielle. Ce serait dommage de les dissocier, parce que je vais pas revenir sur le raisonnement global, mais on pourrait potentiellement le dissocier, oui.
Comment vous faites pour, parce qu'il y a des sportifs de haut niveau, qui s'entraînent, etc. Vous avez une stratégie pour aider les clubs à les faire venir, pour les accueillir,
pour tout ce qui est politique de stage et d'entraînement. Oui, on a des commerciaux, purement simplement. Aussi, j'assume les termes parce qu'ils sont présentés comme ça. Et on démarche les équipes, on démarche les nations, on fait venir. Il y en a avec qui ça marche, d'autres avec qui ça marche pas, qui viennent voir, qui sont intéressés, pas intéressés. Donc oui, il y a une vraie démarche commerciale. Donc pour les JO, c'est encore un tout petit peu particulier. C'est qu'on est passé, on a passé une étape intermédiaire de validation de ce qu'on appelle les centres de préparation aux Jeux. Donc on est le territoire, ça aussi, on le sait peut-être peu. On est le territoire en France qui sommes le plus labellisés en nombre de disciplines. Donc 42 disciplines entre les disciplines olympiques et paralympiques comptent en moyenne sur les territoires, c'est une labellisation sur 3-4 disciplines. D'accord. Donc nous, on a la potentielle La qualité de nos équipements nous permettrait d'accueillir des entraînements pour 42 disciplines. Donc, on a passé déjà cette étape-là, et une fois que vous êtes validé et que ben vous en avez eu le certificat en disant que sur telle discipline, ben vous êtes en capacité 2, vos équipements correspondent aux normes internationales, ben, après vous démarchez les équipes, vous le faites savoir, voilà, on, quand c'est des équipes au niveau national, au niveau des équipes françaises, on reçoit les DTN, les directeurs techniques, qui sont à peu près dans toutes les disciplines en France, pratiquement, sont toutes, tout le monde a et pas fait un séjour à Vichy pour visiter nos équipements, qu'on leur explique la stratégie, et après à eux dans leur planning, dans leur stratégie de nous dire, et à nous après, aujourd'hui en fait, il nous reste en sur quelques sports, très peu, de la place par exemple pour l'année prochaine, mais on commence déjà à être à peu près full nous sur le planning pour la préparation JO.
D'accord.
JO et Paralympique. Paralympique, on est quasi, on est full sur le mois d'août, sur les stages pré-olympiques et pré-olympiques des derniers jours. Et sur la partie olympique, donc les stages qui vont se dérouler plutôt fin juin, début juillet, là, il nous reste quelques places sur quelques disciplines, mais sinon, on est complet. Oui.
Ouais, c'est-à-dire que dans un an, la ville va avoir...
Alors, grouiller, pas obligatoirement. C'est peut-être là où il y aura une frustration, d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est des sportifs qui vont venir. Déjà, ils sont dans une démarche de début de concentration. Ça va être dans des milieux très fermés. Ça va pas grouiller comme un événement. Là, dans une semaine, on va accueillir les Global Games, où là, évidemment, ça va être un peu plus massif. Ou quand on accueille l'Ironman, où il y en a plein les rues. Là, ça va être assez confidentiel. Donc, il va y avoir une forme de frustration. C'est des entraînements qui, les trois quarts du temps, et à mon avis, même quasiment à 100%, parce que les gens sont tellement concentrés, il y aura très peu d'entraînement public. Donc oui, il va y avoir une forme de frustration parce qu'on va pas le sentir. On va le savoir, on le fera savoir, mais ça va pas tellement se sentir dans la ville. Donc là, je comprends effectivement. Bon, mais ce qui est important pour nous, par contre, ça va être de voir avec les équipes, avec les athlètes, comment on peut le faire savoir sans les déranger, par le biais des médias, etc. Et puis pour que nous, derrière, on puisse aussi montrer cette excellence du territoire.
Parce qu'on parle de santé, c'est vrai qu'on parle d'attractivité, donc visibilité extérieure et autres, touristique, mais aussi pour attirer des habitants, j'imagine, hein, que ça fait partie des choses. Mais c'est vrai que bon, il y a les habitants, les enfants, l'éducation, former des sportifs pour plus tard, des gens en bonne santé, dans la logique santé. Donc comment vous articulez ça en fait par rapport à vous?
Alors tout n'est pas parfaitement articulé. Cependant, on a par exemple des actions qui s'appellent Samedi Sport, où on propose de la découverte sportive aux jeunes pour les samedis. Là, cet été, on va avoir aussi beaucoup d'activités sportives gratuites pour toutes les cibles et toutes les tranches d'âge d'ailleurs. Des plus jeunes avec un nouveau passeport kids, et puis avec des actions aussi qui vont être tournées vers plus les seniors, etc. Donc l'idée, c'est de multiplier les animations et les sensibilisations, avec un objectif évidemment, c'est plutôt après d'orienter les gens vers les clubs. Même si, et ça c'est plus une réflexion au long cours, c'est que l'une des difficultés dans le monde sportif aujourd'hui, c'est que ça va être de plus en plus difficile de fidéliser, même sur une saison, un sportif sur un sujet. Chez les jeunes, on voit bien, hein, ils ont envie de zapper, faire à la limite plusieurs sports dans l'année, etc. Donc l'une des grandes questions, c'est comment on facilite aussi, ce qui est très déstructurant, parce qu'un club, il a aussi ses objectifs sportifs, un calendrier à respecter, etc. Bon, mais ça fait partie des choses où on doit peut-être avoir une autre couche d'une certaine manière, même si c'est animé par les clubs, en se disant comment on facilite aussi cette volonté de... J'aime pas trop le terme, mais c'est une réalité de consommation sportive sur le territoire pour celui qui n'a pas envie non plus de s'engager sur toute une saison dans un club, etc. Donc il faut qu'on facilite cela aussi. Et ça fait partie des stratégies aussi à moyen terme, c'est de se dire tous ces équipements, le centre Omnisport, d'autres équipements sportifs, etc., ou comment on facilite l'activité sportive, ou même celui qui veut venir un week-end. Là aussi, ça va peut-être vous faire sourire, et puis ça ne fait pas faire de la publicité pour un organisme, mais il faut qu'on puisse venir à Vichy un peu comme on va dans un center park, quoi, aussi. Et puis où on a une application, j'ai envie de réserver mon court de tennis, j'ai envie de réserver du canoë, j'ai envie d'aller sur la rivière artificielle, j'ai envie d'aller courir ou je sais pas quoi. Bref, où on a un programme qu'on peut faire librement, d'une certaine manière, et qu'on puisse bénéficier de tous ces équipements, et pas de se dire les équipements sont réservés aux clubs, aux associations, et c'est je viens ici, je veux faire du tir à l'arc, il faut que je sois licencié au club de tir à l'arc. Non, on a des équipements, comment on fait ça? Comment on construit ça demain? Comment on construit cette offre? Et ce qui est vrai pour le touriste, bah ça sera vrai pour l'habitant, parce que si on fait des applications, si on fait des accès comme ça, si on facilite l'accès dans cet esprit-là, bah ça sera tout à fait accessible aussi pour le vichysois qui aujourd'hui se dit bah tiens, ce matin j'ai envie de faire du tir à l'arc, je regarde sur l'application si je peux aller faire du tir à l'arc. Donc il faut qu'on arrive à faire ces offres comme ça, sans dévitaliser non plus les clubs, parce qu'on a besoin après d'avoir des gens qui rentrent dans des clubs, qui se spécialisent, qui deviennent aussi des élites, qui fassent rayonner les clubs, les villes, le sport, les sports. Donc c'est toutes ces stratégies, tous ces équilibres. Mais en tout cas, je pense qu'on est malgré tout, qu'on le veuille ou non, vraiment au carrefour comme ça un peu de ces choix stratégiques en matière de sport, et que même si c'est, j'entends bien hein, le discours que certains vont le regretter, que on rentre dans une logique consumériste du sport, etc. Oui, mais de toute façon, si on l'accompagne pas et qu'on le développe pas et qu'on se dit pas, ben voilà, le gars qui va faire 3 fois du tir à l'arc, ben c'est peut-être l'occasion la 3e fois de venir voir et de lui dire, ben tu viens au club. Et si on lui empêche, ben on loupe aussi quelque chose. Donc il faut, à mon avis, trouver un juste équilibre et intégrer aussi les évolutions de pratique et la manière dont on pratiquera et qu'on pratique déjà le sport aujourd'hui.
Oui, surtout qu'en plus, on le sait, les enfants sont assez sensibles. Si un copain vient faire un sport, qui vient essayer, etc. Ouais, puis, on a plein de jeunes, enfin, plein d'athlètes de maintenant qui disent, ben, je faisais du foot, j'ai essayé un jour l'athlétisme, je me suis rendu compte que je courais vite. Et maintenant, je suis au JO, parce que j'ai eu des athlètes dans ce cas-là qui ont fait ce parcours-là. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi du test, des manières de tester, de venir à des sports.
Et là, on est pleinement dans notre rôle de ville, demain, d'apporter cette couche qui facilite, justement, cette possibilité de passer d'un sport à l'autre, de tester un sport à l'autre. Et je reste convaincu que même si à court terme, les clubs n'y verront pas obligatoirement un intérêt majeur, à moyen et long terme, ça bénéficiera aussi aux clubs. Parce que il y a plein de gens, comme vous le dites, qui vont découvrir et se découvrir une âme peut-être pour l'aviron ou pour autre chose. Ils n'en avaient même pas l'idée.
Ah ben, moi, de toute façon, il y a un truc, je vois passer des avirons tout le temps, je me dis, à la fois, ça va être dur, mais en fait, je me dis, j'ai envie d'essayer.
Bien sûr.
Parce que ce matin, j'ai regardé, ça avançait bien quand même et tout, mais il y a des fois, je vois les enfants, il doit y avoir les écoles qui viennent faire des activités. C'est vrai qu'on se dit, on a envie d'essayer.
Donc, il faut que demain, mais ça, c'est une révolution sur les techniques pour faire, c'est une révolution dans les mentalités des clubs. Parce que les clubs sont pas tous préparés à ça. Certains s'y préparent depuis de nombreuses années, font déjà des actions comme ça. Mais je pense qu'il faut tendre vers cela aussi. Voilà. Et même si j'ai conscience que du coup on est un peu dans la consommation d'activités sportives, mais il faut quand même qu'on avance un peu vers cela. Et voilà. Et je le redis une 3e fois, mais je pense que ce sera au bénéfice de tous les sports et de tous les clubs in fine.
Alors d'ailleurs, j'ai vu que le triathlon et la fédération de triathlon fait des animations cet été et que Vichy participe. Hein, avec alors ceux qui sont intéressés par le triathlon, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que le tarif pour les nombres de séances, enfin, c'est presque cadeau parce que ça pourrait être presque symbolique en fait les sommes. Mais ça montre bien aussi l'engagement finalement des clubs, de certaines dynamiques qui disent bah tiens, c'est l'occasion d'attirer des gens, de faire tester quoi.
Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça, voilà, moi je crois fortement à ces logiques là. Et là aussi, pour être dans les logiques événementielles, il faut peut-être qu'on apprenne à ouvrir plus les événements, à faire découvrir et profiter des événements pour faire découvrir. Bon, le problème, c'est qu'après, c'est souvent des soucis de logistique. Profiter aussi de l'année 2024, qui sera une année évidemment très sportive en France et avec les JO et notre territoire en particulier. Comment on fait pour être sur une année encore plus sportive que d'habitude et faire découvrir peut-être encore plus de sports que d'habitude. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a commencé à travailler d'ailleurs, mais pas trop en dire aujourd'hui. Mais 2024 sera une année profonde, très sportive à Vichy.
D'ailleurs, il y a un truc dont j'ai fait la remarque. Je suis allé tester la fameuse piscine. Donc, je nage pas. Moi, j'ai pas nagé aussi vite, etc. Mais par contre, j'étais étonné parce que en venant de Clermont, où les horaires d'ouverture, en tout cas à côté de Clermont, il y a des piscines, on a des horaires d'ouverture qui sont très faibles. Et là, j'étais étonné. J'ai dit, la piscine, je la trouve quand même largement beaucoup plus ouverte en heure, en temps d'accès. dans la journée, même en fin de journée, même sur des créneaux, parce qu'elle ferme assez tard certains jours, etc. J'étais assez étonné. Et alors, est-ce que c'est expliqué? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait plusieurs bassins? Comment c'est?
Non, c'est une vraie volonté d'ouvrir nos équipements. On a des équipements qui coûtent, entre guillemets, suffisamment cher pour le contribuable, donc autant les ouvrir le plus possible. Et encore, même avec ces horaires extrêmement larges, on nous dit qu'il faudrait encore les ouvrir plus. Bon. Certes, mais oui, non, c'est une vraie volonté pour nous. Enfin, et puis là, c'est une vraie volonté aussi pour nous sur les piscines. On est un des territoires. On a la piscine pour les 85 000 habitants, ce qui est pas beaucoup. On gère au total 5 bassins. Hein. On a la piscine de Bellerive, on a la piscine de Cussé, on a une piscine alors d'été certes, mais à Saint-Thior et à Saint-Germain et au Maillet de Montagne. Donc on a en plus beaucoup d'équipements, par exemple sur des piscines. Donc non seulement on a des horaires larges, mais en plus on essaie de d'essaimer et d'avoir beaucoup d'équipements sur notre territoire, entre autres au niveau piscine. Il y a d'autres sports évidemment qui ont moins d'équipements et on peut que le regretter, certainement, mais on peut pas non plus être excellent dans tous les sports et en termes d'équipement. Mais oui, c'est une volonté, clairement, d'ouvrir les équipements le plus possible. Et ceux qui sont pas suffisamment ouverts aujourd'hui, d'avoir justement cette stratégie d'ouverture.
Il y a un autre point aussi qui est très marquant, qui moi m'a marqué vraiment, c'est les pistes cyclables.
Ouais.
Alors je sais pas combien il y a de kilomètres de pistes cyclables. Alors dans la ville, pour rouler classiquement en déplacement, mais aussi pour sortir avec les boucles autour de l'Allier, pour la Saint-Thior, pour les premiers jours chez la Bille, enfin et tout. Enfin, il y a combien de kilomètres?
Alors, au moment où je parle, je ne sais pas. Notre objectif à 3 ans, l'idée d'avoir des boucles sécurisées, parce que vous avez plusieurs niveaux de pistes cyclables, mais vraiment des pistes cyclables au sens propre du terme. On veut dépasser les 100 km de boucles d'ici de 3 ans, enfin de pistes cyclables. On en fait une importante entre le centre de Vichy et la commune de Charmeil à côté, hein, qui pourtant, c'est deux communes qui ne se touchent pas spécialement, mais avec une piste vraiment parfaitement sécurisée, un investissement assez lourd pour nous, hein, puisque c'est, je crois que ça doit être dans les de mémoire de 500 000 euros, quelque chose comme ça. On va en faire une autre en direction de Saint-Thior, ce qui fait qu'effectivement tout le cœur urbain va être quand même globalement assez bien maillé en pistes cyclables sécurisées. Et puis après, il y a aussi les pistes et les itinéraires cyclables un peu plus de loisirs, ce que vous évoquiez sur la voie verte. On est content parce que cette via Allier, on voit bien, hein, côté Puy-de-Dôme ou côté reste sur le côté de l'Allier, c'est un peu poussif, ils ont un peu de mal à le développer. Ça fait déjà maintenant 4-5 ans que c'est inauguré. Donc on voit effectivement qu'il y a une dynamique là-dessus et que c'est moins des logiques de déplacement, c'est plus des logiques de loisirs. Mais effectivement, ça se développe bien. Et bon, notre territoire s'y prête plutôt bien aussi parce que évidemment, on a un territoire plat. Mais au-delà du cœur de notre territoire, sur toute la communauté d'agglomération, le secteur de la montagne bourbonnaise qu'on pilote aussi sur ces sujets-là, on est en train de réaliser avec Roanne, avec les Monts du Forez, avec la Palisse, on va avoir le plus grand terrain de jeu VTT, avec le plus grand nombre de kilomètres en Europe d'itinéraires VTT d'ici un an et demi, avec des circuits balisés, etc. Donc là, par contre, ça sera un peu plus difficile pour les non-sportifs. Mais vraiment, il y a cette logique là effectivement du vélo et du vélo urbain, du vélo du quotidien, mais aussi du vélo loisir sur du plat, mais aussi la partie VTT qu'on développe à fond. Ouais.
Oui, parce que c'est vrai que c'est plat sur le long de l'Allier, mais c'est vrai que pour le premier jour je suis à Saint-Thior, puis après je suis monté, après un peu dans la montagne, etc.
Ça va vite, oui, ça monte vite.
Le Vernet, après je suis remonté, Creusier aussi un jour, je me suis fait avoir, j'ai dit tiens, ça monterait à Creusier quand même et tout.
On va faire un itinéraire qui s'appelle l'itinéraire Sichon-Tacot, hein, qui reprend l'itinéraire de la rivière Sichon et de l'ancien Tacot qui montait dans la montagne bourbonnaise. Ça va être un itinéraire, et puis rien qu'en vous donnant le nombre de kilomètres, ça vous dit le potentiel peut-être que l'on aura demain pour faire certains événements. Ça va être un itinéraire de 42 kilomètres et qui va partir effectivement de la ville de Vichy, qui est à 250 mètres, et qui va aller jusqu'à plus de 1000 mètres, donc avec des dénivelés importants, etc., qui sera un itinéraire rando VTT qui va être extrêmement intéressant sur 42 kilomètres. Donc voilà, et ça c'est pour d'ici 2-3 ans. Donc ça nous permet et ça nous donnera d'autres perspectives. L'idée c'est de vraiment s'ouvrir aussi au sport nature, parce que voilà, tout le monde le sait pas non plus, mais Vichy Communauté, son notre point culminant c'est 1200 mètres. Hein. Donc il faut aussi qu'on utilise ces reliefs, qu'on s'approprie cette dimension aussi de moyenne montagne. Hein. On n'est pas non plus les Alpes, cette dimension de moyenne montagne au sens sportif du terme aussi. Donc c'est des sujets de développement pour nous demain, ouais.
Le...
C'est des itinéraires qui sont bien connus d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que le triathlon est intéressé, et c'est aussi pour ça que notre Ironman est aussi très a une identité particulière, c'est que l'itinéraire vélo de l'Ironman qui utilise justement la montagne bourbonnaise maintenant est réputé comme un des Ironman vélo les plus difficiles d'ailleurs, mais on a cette chance sur ce territoire justement d'avoir aussi ce relief, ces secteurs très plats et ce relief qui vraiment pour le coup ça se prête bien entre autres au triathlon.
Ouais. Ouais, mais c'est vrai que je suis pas, la fois où je suis passé, je fais les petites flèches de l'Ironman, vélo, c'est vrai que c'est vraiment, ça monte, ça descend, c'est sans arrêt, hein, c'est, pour ceux qui s'entraînent sur du plat, ils sont assez surpris. Moi, je connaissais des gens qui m'ont dit, ouais, le vélo, en plus, ils avaient changé le parcours, ils m'ont dit, mais, il est pas plus facile, hein. On a l'impression que c'est plus facile, c'est pas plus simple. C'est genre d'événement, d'ailleurs, donc là, j'ai vu, il y avait la conférence de presse sur l'annonce de la IOTA, qui vous avez signé pour 4 ans, pour qu'elle soit organisée pendant 4 ans. Comment un événement comme ça, c'est quoi l'origine? C'est eux qui viennent vous voir? C'est vous qui avez des marchés? C'est là aussi, c'est des histoires de commerciaux ou...
Après, à chaque événement, il y a un peu une spécificité, mais oui, parfois, c'est nous qui allons frapper aux portes, hein, sur certains événements ou championnats. Là, en l'occurrence, la IOTA, c'est que l'un des membres de l'organisation de la IOTA connaissait bien Vichy. Il était à l'origine d'événements sur Vichy, donc il a proposé. Donc parfois ça se fait par affinité, parfois ça se fait par démarchage, c'est très variable. Et sur la IOTA, c'est une forme de pari, c'est que c'est effectivement un événement naissant, d'un événement effectivement qui se veut demain, enfin dès à présent sur le plan sportif, mais demain un événement qui veut rayonner à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale. Donc c'est quelque chose vraiment en création et d'être d'une certaine manière le territoire un peu d'origine, c'est un pari, hein, mais d'origine d'un événement comme celui-là et de s'inscrire dans la durée avec les organisateurs, voilà, c'est aussi une forme de pari et un peu de challenge pour nous, mais je trouve que ça vaut le coup de montrer qu'on n'est pas non plus simplement dans des sports ou avec des organisateurs qui sont installés, etc., mais d'être un peu dans l'innovation sportive, ça montre aussi notre intérêt pour tous les sports, et puis je trouve que c'est un challenge, ouais, c'est un challenge intéressant, la IOTA.
Il y a des sports qui ne sont pas pratiqués à Vichy?
Un sport d'hiver, même si nous avons notre station de ski. C'est pas loin, là, c'est, on fera pas tous les sports d'hiver. Dans les sports d'été, oui, il y a évidemment quelques sports, mais il y en a pas tant que ça, parce que je crois que dans les disciplines olympiques, par exemple, il doit y avoir, mais je sais même plus lesquelles, il doit y avoir qu'une seule ou deux disciplines vraiment olympiques. Je parle pas de ceux où on a eu des agréments, mais qu'on ne peut vraiment pas pratiquer sur Vichy. Après, évidemment, quand on parle de la pratique de la voile, etc., on peut pratiquer la voile. De là à dire que c'est un grand terrain de jeu pour ceux qui adorent la voile, bon, c'est un terrain d'apprentissage pour la voile, sympathique. Mais en tout cas, sur tous les sports, au moins pour le niveau débutant, non, il y a très très peu de sports quand même qu'on peut pas, comme ça spontanément, j'ai même pas la réponse sur lequel on ne peut pas pratiquer à Vichy. Ouais.
Sur les Ironman, il y a eu quand même des soucis avec l'eau les autres années. Mais c'est vrai,
un souci exceptionnel.
Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'ailleurs sur l'Allier, la gestion de l'Allier, sur.
Alors déjà, ça reste à partir du moment où on fait une activité et qu'on veut développer des activités aussi sportives en extérieur. Bah, y a toujours un risque. Il aurait pu aussi, le jour de l'Ironman, avoir un orage de grêle en plein départ. Et les orages de grêle, on sait ce que c'est à Vichy. Et pareil, il aurait été interrompu. Les aléas climatiques, vous pouvez pas les éviter. Donc là, en l'occurrence, c'était un aléa climatique. C'est qu'on avait eu des pluies extrêmement fortes et intenses dans les jours qui ont précédé l'Ironman. Et comme ça, c'était des pluies après des semaines de sécheresse, bah, ça a lessivé tous les bassins, tout le bassin qui alimente la rivière Allier, même très en amont. Et donc, évidemment, quand vous lessivez et que vous faites des analyses quelques heures après, bah, vous vous retrouvez avec des analyses mauvaises. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut faire contre des pluies et des choses comme ça? À ce moment-là, moi, je peux pas recouvrir l'Allier, je peux pas aller recouvrir jusqu'à Clermont-Ferrand et jusqu'au point de naissance de la rivière Allier. Donc non, il n'y a pas de solution sur l'événement qui est arrivé l'année dernière. Il n'y a aucune solution. Par contre, moi, ce que je dis, c'est que l'avantage de faire justement ces événements, d'ouvrir de plus en plus la rivière à la natation, puisque maintenant on a des couloirs de nage dans la rivière, etc., ça a une vertu. C'est que ça nous oblige, nous on fait des analyses tous les jours, période de baignade, tous les jours dans l'Allier. Je le dis sous forme de boutade, mais pas complètement. Quand vous allez vous baigner dans la mer ou même dans certains lacs, il n'y a pas des analyses tous les jours. Donc on dit, il n'y a pas de problème. Bah, c'est sûr que si on ne recherche pas, il n'y a pas de problème. Il y a certaines plages, je ne vais pas les citer, parce que je ne vais pas faire de la mauvaise publicité, mais je suis persuadé que si vous allez en Méditerranée, surtout pas trop en Atlantique, parce qu'il y a beaucoup de certaines époques, si vous faites des analyses, elles sont moins bonnes que dans la rivière Allier. Sauf que nous, on analyse tous les jours. Et c'est l'intérêt justement d'ouvrir à la baignade ces rivières, c'est que ça nous a poussé, quand on regarde ces 15-20 dernières années, à multiplier les actions justement pour faire la chasse aux rejets sauvages, etc., etc. Et du coup, on a une augmentation de la qualité de l'eau qui est assez significative en 20 ans parce que ça nous a poussé à cela. Alors que si, d'une certaine manière, vous ouvrez pas la rivière à la nage, que vous faites pas, si on ferme la plage, on ne veut plus faire l'Ironman, et puis bon, la rivière, elle est juste là pour la regarder, on fait plus d'analyse. Vous poussez pas, vous êtes moins challengé d'une certaine manière. Donc l'ouverture à la nage et chercher à organiser de plus en plus d'événements, ça a eu vraiment un effet majeur sur l'amélioration de la qualité de l'eau.
Je vous dis ça parce que je regardais tout à l'heure l'eau et je me disais dans le triathlon, je me disais bon, il y a beaucoup de trucs qui arrivent, qui viennent de.
Oui, mais ça c'est normal. Puis on n'a pas de compétition aujourd'hui, mais sinon en période de compétition, on a des équipes qui sont dédiées au plan d'eau, qui nettoient la veille. Bon, après ça reste une rivière, donc évidemment là quand il y a eu des orages comme ces derniers jours, ça charrie beaucoup d'arbres et choses comme ça. Là, on a beaucoup d'algues qui arrivent aussi. C'est pas, il y a rien d'inquiétant, mais c'est des algues qui ont poussé le long de la rivière Allier quand elle était très basse là pendant toute la période du printemps. Là, comme on a un niveau un peu haut, ben l'eau arrache les algues en amont. Ben c'est le milieu naturel. Si on veut pas de milieu naturel, c'est sûr qu'en piscine on a moins de problèmes d'arbres dans la piscine. Bon, il y a d'autres soucis parfois, mais voilà, le milieu naturel, il faut aussi. Voilà, moi ce qui m'importe en tout cas, c'est de voir que sur ces 20 dernières années, l'amélioration de l'eau est significative dans notre rivière.
Vous avez un souhait pour finir cet épisode sur le sport à Vichy, le développement, ou qu'il y ait des athlètes ou des choses particulières, en vous disant j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça?
Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse, quand on pense dans 10 ans, quand on pense à Vichy et quand on pense spontanément, quand on dit mais c'est quoi Vichy, et quand on interrogera des gens à l'extérieur, pas des Vichysois, mais tout de suite on pense à l'excellence sportive. S'il y a des athlètes qui incarnent cette excellence, tant mieux. S'il y a des équipes qui incarnent cette excellence, tant mieux. Mais vous l'avez compris dans notre stratégie, qui est une stratégie aussi très ouverte et pas simplement du territoire qui rayonne à partir de cette équipe, d'une équipe ou d'un sportif, mais un territoire où on a envie d'aller faire du sport. Donc voilà, qu'on soit vraiment ce territoire de référence de l'excellence sportive. Et pour tous les niveaux, c'est-à-dire l'excellence sportive, même pour un débutant, mais qui veut avoir d'excellentes conditions pour débuter, pour être accompagné pour débuter dans un sport ou sur un week-end, etc., qui pense à Vichy comme étant ce territoire d'excellence sportive.
Et ben, c'est une très bonne conclusion, je vous remercie beaucoup. Et je pense que ça permet vraiment de comprendre un petit peu les stratégies qui sont autour du sport, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de villes qui ont des équipes sportives, etc., mais de voir un petit peu les stratégies, comment tout ça s'articule. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Bon, je mettrai tous les liens pour ceux qui voudraient découvrir. Il y a peut-être des nouvelles choses. D'ailleurs, vous avez parlé des applications, des choses comme ça. C'est des choses qui sont en projet.
C'est des choses qui sont en projet. Alors, on a déjà des applications depuis l'année dernière autour de la rando et du VTT, tous nos parcours VTT. Et après, sur les applications plus pour la gestion de nos équipements sportifs, ça, c'est en gestation.
Très bien. Et ben, de toute façon, je surveillerai, je mettrai tous les liens. Et puis, je vous remercie beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Au revoir.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.